pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, cette semaine, C'est pas du vent a installé son studio à Genève, au centre de congrès Palexpo, où pendant 3 jours se sont déroulées les 19e assises européennes de la transition énergétique. 3500 personnes sont venues de toute l'Europe pour échanger, témoigner et débattre dans plus d'une centaine d'ateliers, de conférences et de visites thématiques, dans un seul but, coopérer pour réussir la transition énergétique. Une urgence, car nous devons le plus rapidement possible nous désintoxiquer des énergies fossiles, dont la consommation réchauffe le climat de notre planète et menace l'avenir de l'humanité. Alors on fait comment? Eh bien c'est ce dont nous allons parler avec nos invités et nous allons commencer par rêver cette transition.
C'est pas du vent sur RFI.
Rêver la transition quand la réalité dépasse le storytelling en bon français. Oui, sur RFI, nous dirions quand la réalité dépasse la fiction. C'est le thème de la conférence à laquelle ont participé nos invités en tant que grands témoins. Je vous les présente tout de suite. Cyril Lion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le co-réalisateur du film Demain, sorti en 2015. 3 ans plus tard, il a été vu par des millions de personnes dans une trentaine de pays. C'est un vrai succès.
Oui, oui, ça, on peut le dire. Et une vraie surprise aussi.
Vous attendiez pas à ce que ce film ait autant de succès. Alors, tous nos auditeurs, notamment en Afrique, ne l'ont certainement pas vu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que ce film et quelle était son ambition?
On est parti dans 10 pays avec l'ambition de montrer à quoi la société pourrait ressembler demain si on mettait bout à bout certaines des meilleures solutions qu'on connaît déjà dans l'agriculture, dans l'énergie, dans l'économie, dans l'éducation et dans la démocratie. Et en montrant que tout est lié, qu'on ne peut plus réfléchir les choses de façon partielle et segmentée, mais qu'on a besoin de voir que tout ça constitue un ensemble interdépendant.
Et donc vous êtes allé à la rencontre justement de gens qui font dans tous ces domaines-là et qui montrent du coup à chacun qu'à notre niveau, on peut faire pousser des légumes dans la rue, consommer de la monnaie locale et puis aussi dans le domaine de l'énergie, il y a énormément de possibilités.
Exactement, on a appliqué la maxime de ce révolutionnaire serbe qui s'appelle Zdra Popovic qui est « Voyez grand mais commencez petit ». Donc on voulait projeter une vision grande de l'avenir mais en même temps montrer que des gens commençaient par des petites choses. Les agriculteurs urbains de Détroit qui ont créé plus de 1600 jardins et fermes urbaines dans une ville complètement désolée, abandonnée par le système capitaliste. Ces gens qui, à Bristol, ont créé cette monnaie locale qui aujourd'hui est devenue énorme puisqu'il y a plus d'un million de livres de Bristol en circulation. Voilà. Et effectivement, dans le domaine de l'énergie, on a été voir Copenhague qui s'est donné l'objectif d'être neutre en émissions de CO2 en 2030 ou la ville de San Francisco qui est à plus de 80% de recyclage et de compostage.
Alors on va y revenir tout à l'heure et ce qui est intéressant dans votre film c'est qu'il a donné envie d'agir à plein de gens, d'où la présence de Jonathan Normand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Demain Genève. Alors c'est à partir du film que vous avez eu envie de créer cette association. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Il y a eu une étincelle, qu'on a tous vu ce film. Hein. On était un collectif, on est une dizaine de personnes à avoir créé l'association. Et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on peut montrer à notre population, à nos citoyens locaux, basé en partant du film très large et très complet qui était Demain, sur quelque chose de très local. Qu'est-ce qui se fait ici? Quelles sont les solutions pour tout âge, intergénérationnel, que ça soit le citoyen, l'enfant, le parent ou l'entreprise? On a maintenant un grand challenge, c'est que le film sort en avant-première le 2 février à Genève, et puis on espère pouvoir le diffuser largement et localement pour humblement peut-être avoir quelques milliers ou centaines de milliers de spectateurs.
Alors avec nous aussi, oui, Cyril.
C'est ça pour dire que il y a un Demain Liban qui se prépare, qui va s'appeler Bokra, par un réalisateur libanais très connu qui s'appelle Philippe Araktinji, et un Demain Chine. Et
j'imagine que c'est une vraie fierté pour vous.
Oui, oui, oui. Ça nous bouleverse de voir que ça donne de l'énergie aux autres, parce que c'était le but.
Alors l'énergie, c'est aussi votre centre d'intérêt. Frédéric Bordry, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le directeur des accélérateurs et de la technologie au CERN, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire. C'est l'un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde. Vous travaillez sur l'histoire de l'univers. Alors là, on prend une autre dimension. Hein. On parlait des humains qui sont capables de travailler entre eux. Mais c'est vrai qu'au CERN, c'est aussi l'incarnation de ça. Alors expliquez-nous déjà ce que c'est que ce laboratoire qui a vu naître énormément d'inventions dont on se sert finalement au quotidien.
Tout à fait, c'est une organisation pour la recherche fondamentale, et c'est de comprendre quelles sont les particules élémentaires dont on en est fait, et les forces qui interagissent. En fait, c'est vraiment l'histoire de l'univers, c'est-à-dire à partir du moment où l'énergie, parce qu'au début il y avait l'énergie, et l'énergie, il y a eu E, il y a l'MC2 de la matière, et pourquoi la matière s'est assemblée, et pourquoi on est là, et ça explique. La dernière découverte du CERN, c'est le boson de Higgs, et si le boson de Higgs n'existait pas, on ne serait pas là. Donc
Est-ce qu'on peut expliquer le boson de Higgs pour les nuls ?
On peut, j'aime pas pour les nuls. Oui, je pense que c'est relativement facile. Hein. On a un modèle standard qui est fait de 6 particules qu'on appelle les quarks, 6 leptons, et avec ça, c'est comme du Lego, on fait tout. Mais à un moment donné, quand on a fait ce modèle standard, on a dit, il marche pas parce que les particules ont une masse nulle. Donc si une particule a une masse nulle, elle peut pas s'agglomérer, il n'y a pas de gravité, il n'y a rien du tout. Et le boson de Higgs, les particules elles-mêmes sont intrinsèquement, ontologiquement, n'ont pas de masse, mais elles acquièrent leur masse en se promenant dans le champ de Higgs. Donc c'est la loi qui leur donne la masse et c'est pas ontologique. Donc philosophiquement, c'est très très intéressant. Moi, je dors mieux depuis que je sais que le boson de Higgs existe. Et c'est par ça qu'on a obtenu que ça. Et donc, le boson de Higgs n'existait pas, c'était pas créé au début de l'univers, on serait des photons, des particules qui iraient au travers de l'univers. Donc on existe grâce à ça. Et je pense que c'est fondamental. L'homme, depuis le début, a voulu la connaissance, la conscience. C'est ce qui nous unit. Et on a regardé les étoiles, on vit dans un univers, on vit dans un monde limité, et je pense que c'est aussi ça qui nous rejoint, c'est un monde limité. Il faut prendre conscience qu'on vit sur la Terre dans un monde limité, infiniment grand. Et je pense que des grandes organisations comme ça sur la science, c'est aussi un exemple de comment je vois la société dans le futur, moi. Travailler ensemble sur des grands projets.
Oui, parce que vous me disiez, il y a plus de 100 nationalités qui travaillent ensemble, donc sur ces histoires de particules pour comprendre de l'origine de l'univers jusqu'à notre futur.
Voilà, et c'est comprendre d'où on vient et avoir des futurs instruments qu'on on projette. Vous voyez, nous on voit des constantes de temps très longues, et je pense que dans le domaine de l'énergie aussi, il faut voir des constantes de temps très longues. On a un projet qui va marcher qu'en 2040, et on en train de planter les graines pour un projet qui pourra marcher jusqu'à 2100. Donc c'est effectivement 100 nationalités, 17 000 personnes réparties dans le monde qui viennent ici au CERN à Genève faire leur expérience et qui après retournent dans l'université et qui SM et qui partagent ces données et partagent ces découvertes.
Alors 2040, 2050, 2100 hein, sont des échéances qui vous parlent, vous les porteurs de la philosophie de demain. Alors dans votre documentaire Cyril Dion, il y a 5 chapitres, vous le disiez, agriculture, énergie, économie, démocratie et éducation. À chaque fois vous avez exploré les initiatives qui peuvent nous inspirer, nous donner envie d'agir au niveau local pour un enjeu global. Là aussi, on rejoint les enjeux du CERN et donc permettre à l'humanité de vivre le mieux possible dans les décennies qui viennent, même à 9 milliards. Dans le domaine de l'énergie, vous êtes allé en Suède, en Islande, au Danemark et à La Réunion. Extrait.
Sur l'île de La Réunion, 35% de l'énergie est déjà produite par des sources renouvelables. L'objectif est de parvenir à 100% d'ici 2025-2030.
L'île de La Réunion a très vite pris conscience de la nécessité d'aller vers les énergies renouvelables. Pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons économiques. Hein, il ne faut pas se leurrer. Les énergies fossiles, les énergies carbonées sont extrêmement chères. Extrêmement chères sur des zones non interconnectées, isolées comme les îles.
L'île est petite, très peuplée et habitable principalement sur ses côtes. Le problème est de pouvoir à la fois construire, nourrir la population et produire de l'énergie solaire.
L'idée nous est venue d'essayer de partager l'espace entre les énergies renouvelables et l'agriculture, pour ne pas avoir à choisir et arbitrer entre agriculture et énergie.
L'agri-énergie utilise des serres où le sol est consacré à l'agriculture et la moitié du toit à la production d'électricité. Ces serres protègent les cultures des ouragans, permettent de récupérer l'eau de pluie et de rendre les sites autonomes en eau. L'entreprise Acuo les met gratuitement à disposition des agriculteurs en échange du droit d'exploiter les toitures. Un partenariat gagnant pour tous.
Acuo a appliqué le même principe autour de la prison du port, où la friche industrielle a été remplacée par des serres de maraîchage, des ruches, un arboretum et une centrale solaire qui alimente 12 000 foyers. Les détenus y apprennent à faire pousser des légumes et à construire des panneaux solaires. L'objectif est de les réinsérer dans des métiers dont on aura besoin dans le futur. Pour la première fois, les panneaux sont aussi reliés à des batteries pour stocker l'énergie.
Mais produire différemment ne suffisait pas, il fallait aussi consommer moins. C'est ce que nous a expliqué Thierry Salomon, ingénieur et président de l'association Négawatt.
Est-ce bien raisonnable d'avoir dans nos métros des écrans vidéo dont la consommation d'énergie d'un seul de ces écrans est l'équivalent de la consommation en électricité pour les usages domestiques, équipements, bureautiques, télévision, etc., et l'équivalent de la consommation de deux familles Or, on nous annonce 1 million de ces écrans. Est-ce que c'est bien raisonnable de circuler en ville avec une voiture qui fait 1500 kilos pour transporter un bonhomme qui pèse 70 kilos? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on est habitué à ces choses qui ne vont pas. On peut consommer moins, on ne peut pas être en permanence dans une projection de mégawatts, c'est-à-dire de toujours plus, et de façon sans fin, dans une espèce de course à l'énergie. Il faut réfléchir sur notre consommation, sur toutes nos consommations.
Qu'est-ce que c'est cette énergie qu'on pourrait ne pas produire, qui nous permettrait de vivre normalement
Plus de la moitié de la consommation d'énergie mondiale. De l'ordre de 60-65% de la consommation d'énergie d'aujourd'hui pourrait être évitée. You would rather live in. What are you waiting for? There's no time to waste. Now pick up your spade and dig in.
Cyril Dion, la clé pour les pays occidentaux, c'est ce qu'expliquait à l'instant Thierry Salomon, le président de l'association Négawatt. Faut consommer moins.
Oui, enfin, c'est pour moi la première étape indispensable. Parce que sinon, on rentre dans la même mécanique. On a tendance à dire que les énergies renouvelables, c'est propre, que c'est les clean tech, etc. Mais c'est pas le cas. Il commence à y avoir de plus en plus de parutions. Là, il y a notamment un livre qui s'appelle La guerre des métaux rares qui vient de sortir.
On a reçu l'auteur dans C'est pas du vent il y a deux
voilà.
semaines.
Et donc, qui montre bien que toutes les activités extractives, que tous les métaux rares et tout ce que demande la technologie en général a un impact, et un impact considérable. Donc, si on est dans une course et une fuite en avant avec les énergies renouvelables et avec la révolution numérique, qui essaye de remplacer les énergies thermiques sans faire la moindre économie, ça marche pas. Donc en fait, c'est même un mécanisme beaucoup plus complexe qu'a développé notamment Isabelle Delannoy dans son livre passionnant qui s'appelle « L'économie symbiotique », où on a besoin d'économiser, on a besoin de recycler, on a besoin de changer d'usage, c'est-à-dire au lieu de posséder des objets, de les partager, ou alors de les louer pour obliger les fabricants à les maintenir en bon état le plus longtemps possible, et à combiner en fait tous ces éléments-là pour arriver à des chiffres qu'elle a publiés dans son livre, qui seraient des économies de matière qui vont jusqu'à 90%, des économies d'objets aussi. On parle des voitures. Les voitures électriques, on sait bien que ça a un impact écologique aussi important. Ok, c'est un vrai progrès en revanche pour la pollution de l'air, pour le bruit et tout ça. Mais on a besoin d'abord de réduire les voitures. Il y a une étude passionnante de l'ancien vice-président de General Motors pour l'Université du Michigan qui montre qu'on pourrait réduire de 80% le nombre de voitures en circulation en ayant le même accès à la mobilité. Une voiture, elle reste 90% de son temps garée.
Elle pèse une tonne et demie pour transporter
Exactement.
Des gens qui pèsent maximum 100 kilos.
Si on remplit les voitures et si on les diminue, et si on les fabrique avec des processus d'économie circulaire, et si les matériaux qu'on utilise sont des matériaux renouvelables et pas des matériaux extractifs, là, ça change tout.
Jonathan Lenormand, qu'est-ce que vous allez mettre en avant comme initiative, par exemple dans le domaine de l'énergie, ici à Genève, dans Demain Genève ?
On a pu mettre en avant une initiative qui est menée conjointement par un acteur de l'énergie locale, qui est un établissement parapublic, qui est les SIG, les services industriels genevois, avec l'initiative Genilac.
On en parlera demain dans ces pays.
D'accord. Mmh. Qui utilise l'eau du lac pour refroidir tout un ensemble de bâtiments très importants dans le quartier des Nations Unies de Genève et d'autres, qui sont des vrais progrès où on a créé une mutualisation en fait des ressources pour combiner les consommations, faire du refroidissement. Donc ça, je pense, c'est une des initiatives qu'on met en avant. Plus largement, on met aussi en avant des acteurs locaux qui on utilise des principes. Alors, on parle d'économie de la fonctionnalité, on va parler d'économie circulaire, on va parler d'économie inclusive. En fait, ce sont des entrepreneurs qui ont décidé de faire différemment et d'intégrer les externalités négatives pour les diminuer et puis en générer des positives. Et ce que disait juste avant Cyril et qui me semble ultra, ultra pertinent, c'est qu'il y a un changement de paradigme qu'il faut accélérer pour arrêter de se dire construisons des énergies renouvelables. Mais non, il faut éliminer dans la chaîne, il faut éliminer tout ce qui est impactant. Et donc, ce n'est pas simplement de nouvelles sources d'énergie, mais c'est des nouvelles façons de faire, des nouveaux procédés industriels qu'il faut mettre en place. Et on a une chance à Genève, et je vous en parlerai très prochainement, de lancer une initiative qui s'appelle Innovation Bridge, qui tend justement à créer des pôles sur des thématiques, la mobilité là en l'occurrence qui sera annoncée là pendant les assises, pour justement incorporer, intégrer ces éléments dès le départ dans la conception et éviter qu'on soit dans cette course contre la montre de simplement de l'innovation technologique pour l'innovation technologique. Qui est sexy, qui attire du monde, qui attire un intérêt, mais qui ne règle pas le problème in fine.
Frédéric Bordry, je rappelle que vous êtes directeur des accélérateurs et de la technologie au CERN. Donc vous travaillez sur l'infiniment petit, la particule à une échelle immense, l'histoire de l'univers. Que vous inspire ce moment de transition dans lequel se trouve l'humanité ? On entend bien à travers ce que disent Cyril et Jonathan qu'il faut changer de paradigme, changer de référence, changer, on en parlait juste avant cette émission, presque de croyance aujourd'hui pour que l'humanité assure son futur. Vous qui raisonnez à cette grande échelle, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Non, je partage ces idées de réflexion. Moi, j'ai fait un calcul justement sur les voitures électriques, que si tout le monde avait une voiture électrique à Paris, on n'arriverait même pas à les charger. Le réseau électrique n'est pas assez grand pour ça. Et ça, nous aussi, dans les projets scientifiques, notre but, c'est de faire de la science. Donc, on peut arrêter de faire la science, on ne consomme pas. Mais c'est pas ça. L'idée, c'est pas d'arrêter. On pourrait faire la science, c'est regarder comment on peut consommer moins. Donc pour moi, je suis aussi dans les négawatts, chercher partout où on fait de la science, comment on peut consommer moins, comment on peut améliorer l'efficacité énergétique. Ça, c'est notre premier pilier.
Oui, parce que j'imagine qu'un accélérateur de particules, ça consomme.
Ça consomme de l'énergie. Oui, ça consomme de l'énergie. Il faut monter en énergie des aimants, faut faire circuler. Ça consomme de l'énergie.
Mais est-ce que ça peut permettre de trouver de nouvelles sources d'énergie ?
Alors, je reviens. C'est donc ça, et c'est la récupération de l'énergie. Dans pas mal de choses, on met l'énergie fatale dans de l'eau chaude, et on les met dans des tours de réfrigération, et on met ça aux petits oiseaux. Et maintenant, nous, on regarde comment utiliser ces eaux pour chauffer des bâtiments au CERN, et on a en particulier un projet local avec les nouveaux quartiers à Ferney-Voltaire de pouvoir chauffer des bâtiments. Donc, c'est aussi cette win-win entre une organisation internationale et des quartiers qui échangent de l'énergie. Ça, pour moi, c'est aussi fondamental. C'est l'intégration, c'est comment les organismes de recherche ne sont pas un problème pour l'énergie, mais ils font aussi partie de la solution. Et après, ce sont les technologies que nous, on développe au CERN, qui servent dans le domaine de l'énergie. J'aime en citer deux. C'est les panneaux à ultravide qui sont sur le toit de Genève, qui permettent, grâce à l'ultravide, même s'il y a très peu de soleil, de chauffer de l'eau. Et ça, c'est une initiative qu'il faut continuer. Il y a tout le domaine de la supraconductivité, qui permet de développer des câbles qui pourraient transporter l'énergie sans perte. Donc, il y a un certain nombre de choses. Après, donc, le CERN, nous, on travaille sur l'énergie, parce que c'est l'énergie des particules, on regarde ce qui se passe, mais on n'a pas de nouvelles sources d'énergie. Et je pense que ce qu'il faut dans le futur, c'est des énergies distribuées. Et regardez, la seule source d'énergie que je verrais nouvelle, c'est la fusion. Et ça, c'est la fusion, c'est le projet ITER qui regarderait comment, en fusionnant des atomes légers, on pourrait créer de l'énergie. Et là, je pense que c'est peut-être une source qu'il faut garder.
Là, c'est recopier l'énergie du soleil.
C'est exactement le solaire, l'énergie renouvelable, c'est de la fusion qui se passe dans le solaire. Mais encore une fois, il ne faut pas, et là je rejoins Cyril Lyon qui disait, il ne faut pas regarder une seule chose. Pour moi, je pense au mix. Il y a des énergies renouvelables, il faut regarder le cycle global de ces énergies renouvelables, de la fabrication de la photopile jusqu'à sa régénération. Il faut regarder globalement. Et je crois beaucoup, et en particulier, toutes les énergies renouvelables, éoliennes, solaires, quand le vent s'arrête, etc., le réseau n'est pas stable. Donc nous, on regarde aussi toute la stabilité des réseaux électriques. Mais je crois beaucoup, à des graines mises partout. Et je crois que c'est fini le grand dogme, il y aura une seule énergie. Je pense qu'il faut des énergies renouvelables diverses, locales, mais que la fusion peut être aussi un ingrédient dans le futur.
C'est ce qu'on appelle le mix énergétique. Cyril Dion, ce sera le mot de la fin. Le maître mot, hein, à travers tout ce que vous avez dit, c'est quoi ? C'est synergie ?
Ah oui, c'est la coopération. Il y a un livre aussi passionnant qui vient de sortir qui s'appelle L'entraide, une nouvelle loi de la jungle de Gauthier Chapelle et Pablo Servigne.
Je ne vais pas dire à chaque fois, mais enfin, on les a reçus la semaine dernière.
Ah bah, bravo. Mais je vous félicite. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est Harari qui dit ça dans son nouveau bouquin Homo Deus, que d'une certaine façon, ce qui fait que les êtres humains ont réussi à prendre le dessus sur les autres espèces, c'est leur capacité à coopérer, qui est extraordinaire, et qui est, à large échelle, organisée par les histoires, par l'intersubjectivité, par les mythes. Donc, pour moi, c'est très 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 important de construire un autre imaginaire, de construire de nouveaux récits qui vont embarquer des millions de personnes pour commencer à mettre en œuvre toutes ces choses dont on est en train de parler. Ça commence par l'imaginaire, souvent.
Merci à tous les trois d'être venus dans notre studio installé au centre des congrès Palexpo de Genève. Restez sur RFI, le temps pour vous d'écouter le flash d'info et pour nous d'accueillir d'autres invités qui vont nous parler de ces milliers de projets portés par des citoyens qui se réapproprient leur énergie. Vous allez voir, ça va vous donner envie de faire comme eux. À tout de suite.